Vendredi le 31 janvier, bonjour tout le monde, bienvenue à Sortie de zone. Ici Mario Langlois en compagnie d'Alexandre Pratt. Bonjour Alexandre.
Salut.
Simon-Olivier Lorange, bonjour Simon-Olivier.
Salut Mario.
Et Jérémy Filosa, salut Jérémy.
Salut les gars.
Lendemain de victoire du Canadien qui maintient les minces espoirs de voir l'équipe peut-être aligner quelques victoires puis rester dans la conversation. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au moins, même si l'espoir est ou les espoirs sont minces, le Canadien va continuer de jouer à moins qu'ils subissent quelques défaites, dont en fin de semaine, des matchs signifiants. Et ça, c'est intéressant. Hier, c'était intéressant de les voir aller, mais on dirait que c'est pas ça qui est au centre des discussions aujourd'hui, mais plutôt le retrait de l'alignement de Kotkaniemi et le renvoi à Laval de Cale Fleury. Qu'est-ce qui vous anime plus, les gars, vous autres, aujourd'hui, ben, le match ou les décisions?
Tout ça est interrelié. C'est que, bon, le Canadien, puis Claude Julien l'a indiqué assez clairement après le match d'hier, joue encore des matchs pour gagner. Je pense que si on avait déjà abandonné, on se dirait, ben allons-y avec les jeunes, on pense déjà à l'année prochaine. La problématique qu'on voit là-dedans, c'est que au moment où on se parle, on regarde le pourcentage mathématique de voir le Canadien faire les séries, c'est à peu près 1%, 2%. Sauf que le club ne sera probablement pas mathématiquement éliminé avant, par exemple, disons le 20 mars, où ça va être vraiment officiel. Donc là, la décision, c'est qu'est-ce que tu fais entre aujourd'hui et cette journée-là où t'es officiellement éliminé? Est-ce que tu te fies à la mathématique puis tu te dis, écoute, là, on n'est pas là, allons-y avec les jeunes, commençons le processus pour commencer à préparer l'année prochaine, ou est-ce que tu dis, non, tant et aussi longtemps que c'est pas écrit sur la feuille, éliminé à côté de notre nom, on essaie de gagner, puis si ça veut dire que Dale Weiss passe en avant de Kotkaniemi ou peu importe, ben, c'est ça. Donc, c'est ça la décision que le Canadien doit prendre.
Vous autres, les gars, moi, je suis pas sûr que je vois les choses de la même façon, mais je veux tous vous écouter, bien sûr.
Ben, moi,
à peu près, mais à quelques nuances près.
J'ai un peu l'impression que c'est vraiment, quand on parlait de Kotkaniemi et Fleury, les deux qui ont retenu l'attention les deux derniers jours, j'ai l'impression que c'est vraiment deux dossiers distincts. Dans le sens que c'est pas deux joueurs qui ont le même profil. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un choix, on connaît le profil de Kotkaniemi, un choix très, très tôt repêchage, etc. On a énormément d'attentes, alors que Fleury, ça a un peu surpris tout le monde cette année qu'il fasse le club. On s'attendait à ce que, peut-être, est-ce qu'il joue avec le Canadien, mais il fasse la navette avec la Ligue américaine. Alors, ça m'émeut pas énormément de voir Cale Fleury retourner à Laval aujourd'hui. Même, je trouve ça, j'ai l'impression que le Canadien pose un geste assez cohérent avec là où il en est présentement, de dire, ben, si on veut gagner des matchs et que Fleury n'est pas dans notre top 6 de défense, ben, envoyons-le à Laval pour qu'il joue, parce qu'il y a 20 ans et c'est ça qui est important, qu'il joue. Dans le cas de Kotkaniemi, je suis un peu plus mitigé, mais j'ai l'impression qu'on va en reparler tantôt.
Mm-hmm. Ben, moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue de gestion, c'est-à-dire gérer en croissance, c'est ça, c'est des défis, mais c'est plutôt facile. T'sais, gérer la décroissance, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Je parle ici de Bergevin et de Julien. Et là, clairement, l'équipe est en décroissance cette année. Ça va pas bien. Ils doivent prendre des choix difficiles. On est à l'heure des choix présentement. Et bon, le renvoi de Fleury est, à mon avis, une première étape. Je pense qu'il y en aura d'autres, ne serait-ce que quand les joueurs réguliers vont revenir en plus grand nombre, quand Drouin, par exemple, va revenir, ou même Byron, il y a d'autres joueurs qui vont retourner à la balle. Puis je trouve ça quand même intéressant. Ils ont eu le guts de renvoyer Fleury, même si ça va contre l'idée de l'opinion populaire. Et je pense aussi que ça s'en vient pour Kotkaniemi.
Jérémy, j'aimerais ça que tu précises par rapport aux jeunes. Tu veux-tu dire s'ils liquident des vétérans? Parce que là, on voit qu'avec le retour de blessés, ils sont en mesure de faire des choix, comme de décider de laisser Kotkaniemi de côté.
Ouais.
Fait que quand toi, tu parles, mettons, quand le Canadien, là, de façon plus claire, mettons que le Canadien s'éloigne d'une place en série, toi, tu vois plus, contrairement, par exemple, à Mario Tremblay qui dit, moi, mes jeunes, je les envoie à Laval, puis j'espère qu'ils vont loin en série. Toi, tes vœux en haut?
Non, pas nécessairement. Okay, je veux dire, si,
c'est
on,
ça,
voit,
pas d'avoir
si on voit que le Rocket en bas, par exemple, a peut-être une chance de faire les séries, ça peut devenir très intéressant pour ces jeunes-là d'aller jouer là, puis jouer des matchs vraiment significatifs où tu te bats pour essayer de gagner quelque chose. Donc, non, pas nécessairement, mais à partir du moment où tu décides en tant qu'organisation que cette année, on va commencer à préparer les années suivantes, ben là, tu peux prendre des décisions en conséquence. Présentement, c'est clair. Claude Julien est encore dans un mode de, on veut ramasser les deux points à tous les soirs pour continuer de se donner un espoir de faire les séries éliminatoires. Donc, c'est clair. L'organisation s'en va dans cette direction-là pour l'instant. Et ça fait en sorte que, justement, on se retrouve avec un Kotkaniemi dans les estrades. Je sais qu'il y a bien du monde qui panique avec ça. C'est juste un match pour l'instant. C'est pas dramatique un match. C'est sûr que sur le long terme, tu le laisses dans les estrades, ça n'a pas de sens. Mais pour l'instant, un match, c'est pas la fin du monde, mais il faut prendre une décision là, avec les autres.
Je suis d'accord avec toi, le laisser dans les estrades ne fait pas de sens, mais est-ce que le laisser dans la Ligue nationale, présentement, fait aussi du sens? J'en suis vraiment pas convaincu. Non seulement, si on regarde la dernière année, là, les 12 derniers mois, là, du 1er février au 1er février, là, écoutez, il y a 19 points en 64 matchs, ça a l'air pas super, il est moins 13. C'est le pire total du Canadien, puis je veux dire, on va le mettre en avant de qui présentement dans l'alignement? Mm-hmm. Si on regarde la ligne de centre, il y a Dano, il y a Domi, il y a Suzuki. Il n'est pas meilleur que ces trois-là. Bon, puis là, il y a Thompson qui a vraiment un rôle, tu sais, je veux dire, en désavantage numérique, qui a vraiment un rôle distinct. Le problème de Kotkaniemi, c'est son jeu défensif. Puis sérieusement, il va falloir qu'il corrige ça parce que je ne sais pas c'est quoi son avenir réel dans la Ligue nationale avec un club de premier plan s'il n'est pas capable de régler le jeu en zone défensive. Le Canadien a déjà Domi qui est déjà pas une superstar en zone défensive. Tu peux pas avoir deux de tes trois premiers centres qui savent pas jouer en zone défensive.
Mais le fait que Domi a été utilisé au centre sur le troisième trio, on dirait qu'on avait comme tous pas vu venir ça. Il y avait un peu l'idée collective que Domi, il allait prendre son trou, il allait le mettre à l'aile gauche et c'est tout. Et là, tout à coup, on se retrouve au centre du troisième trio et, ben oui, il n'y a plus de place pour Kotkaniemi dans le top 9. Et Julien l'a répété toute la saison, je pense qu'il l'a redit aux deux jours, il a 19 ans. Un joueur de 19 ans qui s'en va dans la Ligue américaine, par exemple, si c'est ce qui arrivait, je pense
pas dramatique. Quelque chose.
C'est pas dramatique, c'est pas négatif. Et je pense qu'il y avait peut-être pas un consensus, mais l'idée de l'envoyer au championnat du monde junior à l'automne il ramassait beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient que ça avait du sens de dire on va lui donner de la confiance, tout ça. Pourquoi tout à coup, au mois de janvier, bientôt février, l'envoyer potentiellement, encore une fois, à Laval, dans la Ligue américaine, jouer un rôle de premier plan, gagner de la confiance, gagner les matchs dans un environnement beaucoup plus positif qu'à Montréal. Je vois pas en quoi ce serait négatif pour sa carrière.
Moi, j'étais contre le fait qu'il aille dans la Ligue américaine au mois de novembre. Je trouvais qu'il était trop tôt dans la saison. Hey, maintenant, là, c'est plus une léthargie. Là. Ça fait 12 mois que ça ne fonctionne pas dans la Ligue nationale pour un espoir de premier plan. T'sais, à un moment donné, il va falloir recrinquer la machine. Là. Il va falloir ouvrir la machine puis aller jouer dedans avant de la refermer parce que parti comme c'est là, son développement, c'est une année perdue là, présentement pour le Canada.
Ben, ça ressemble à ça, puis je pense qu'il y a un prêt à payer aussi là, dans l'immédiat pour des décisions qu'ils n'ont pas prises. Moi, tu dis que c'était trop tôt en novembre. Tu sais, à un moment donné, quand tu y vas pas au mérite, je sais pas s'il y a une date où c'est trop tôt ou c'est trop tard, même au début de la saison. Moi, ce qui vient me chercher un petit peu, puis Claude Julien, là, j'aime son discours, c'est pas un discours de tu sais, il affirme ce qu'il affirme, puis il dit, le garçon, il est pas assez bon actuellement, là, je peux mettre une meilleure équipe sur la glace, et on sent la volonté de gagner. Ce qui vient me chercher, puis je dis pas que c'est une incohérence, mais j'aurais aimé ça que cette volonté-là soit là dès le début de l'année. Tu sais, je veux dire, on se permet de faire jouer des gars qui n'ont pas mérité leur poste. On se rassure ensemble dans la bulle, loin du bruit, qu'on a le bon alignement pour faire les séries. Et tout nous pète d'en face. Puis là, je sais que les blessures, vous allez me dire, ont obligé l'utilisation de certains jeunes, mais on aurait pu faire d'autres embauches pour s'assurer que certains de ces jeunes-là jouent toute l'année à Laval. Ben donc, oui. On n'avait pas le meilleur club possible sur la glace depuis le début de l'année. Mais et je trouve ça drôle que là, à 10 points des séries, tout à coup, on le fasse. Mais je ne vais pas être contre le fait qu'on place le meilleur club sur la glace possible.
Mais là, il va y avoir des retours de joueurs, donc ça change un peu la donne. Mais souvenez-vous qu'au début de l'année, après 10-12 matchs, déjà, on se posait la question. On se disait, tu sais, est-ce que ce serait pas peut-être une meilleure idée de l'envoyer en bas? Finalement, il était allé quand il avait été blessé, souvenez-vous. Il avait fait quelques matchs là, avec le Rocket, si je me souviens bien.
Pas de Peeling?
Kotkaniemi. Kotkaniemi, quand il a été blessé, il est retourné en bas.
Non, il n'a pas joué en bas, Jérémy.
Ah, il n'a peut-être pas joué, il était blessé.
Il a été blessé, point final.
Ils l'ont gardé en bas. Il n'est jamais allé en bas.
Il me semble qu'il est allé avec le Rocket pour du conditionnement.
Non,
OK, il n'a pas été renvoyé. En tout cas, peu importe.
Ils ont eu plusieurs occasions de le faire, justement. Ah ouais. Si c'est l'opinion publique qui les garde sur les talons quant à ces décisions-là, ils ont eu deux fois où Kotkaniemi a été retiré de l'alignement à cause de blessure ou de sa condition, et on aurait pu utiliser, sans que ça soit une démotion quoi que ce soit, une séquence de quelques matchs pour aller comme on avait fait avec Mété. On en a discuté, les gars, quelques reprises dans le podcast, mais ils ont vu ça autrement, là, clairement.
Je veux dire, tout ça fait part du principe qu'on l'a gardé ici l'année dernière pour l'année au complet. Puis là, on trouve que c'est la fin du monde si on l'envoie en bas. Mais comme tu viens de le mentionner, à 19 ans, puis s'il connaît une bonne saison, une bonne fin d'année, puis je sais pas, mais je pense pas qu'il va revenir dans 5 ans puis dire, hey, vraiment, là, ce qui a gâché ma carrière, c'est que je t'ai retourné jouer avec le Rocket une fin de saison ou quoi que ce soit. Là. Pas du tout même, là, je te dirais.
Mais c'est parce que s'il était retourné au mois de novembre, il aurait peut-être passé un 6 mois dans la Ligue américaine. Là, on parle ici de 2 mois dans la Ligue, peut-être 3 s'il y a des séries. Pour moi, c'est quand même différent. Puis l'autre chose, c'est qu'il n'a pas prouvé. Il n'a pas prouvé dans les 3 derniers mois qu'il méritait un poste dans le top 9 avec le Canadien. Alors, il y en a eu des chances. C'est pas vrai là, qu'il ne joue pas contre Kanemi. Il joue quand même 13 minutes par match.
Il faut
juste dire, tu sais, Day-Louis, il en joue 9 par match, puis il y a plus de points. Il y a 4 fois plus de points que contre Kanemi dans les 10 derniers matchs. Là,
mais par rapport
c'est
à.
Pas des farces pareilles. Oui, vas-y.
On parle de tantôt, Jérémy disait à juste titre que le Canadien, ça va être long avant qu'il soit mathématiquement exclu des séries. Mais moi, j'ai l'impression que le week-end qui s'en vient, celui de. En fait, le week-end Super Bowl du 1er 2 février, va être extrêmement déterminant parce que contre Kanemi, je pense que son utilisation va dépendre aussi d'où en est le Canadien, dans le sens, est-ce que le Canadien, tu sais, le Canadien n'arrête pas de dire, on veut atteindre les séries, on veut atteindre les séries, mais au terme du week-end, au cours duquel il affronte deux équipes qui est directement en avant de lui, si, par exemple, hypothétiquement, le Canadien perd les deux, se retrouve à 14, 15 ou 15 points des séries avec des matchs en retard, si le Canadien se retrouve exclu des séries plus rapidement qu'on pensait, mais que Kotkaniemi à Laval, je pense que ça peut être positif. Par contre, si le Canadien se retrouve tout à coup, dans une course aux séries, il se retrouve qu'on va être à 5-6 points et le retour de Drouin, etc., qui est de la compétition interne. Mais je pense que là, ça devient un environnement positif pour dire on garde un gars comme Kotkaniemi pour la dernière poussée. Puis
sans
on
le
joue,
faire jouer,
ouais. En l'entrant ou en sortant de l'alignement. D'en faire un élément qu'on peut utiliser.
Sur la route, je vois pas où est-ce qu'ils vont le mettre dans line-up sur la route. Tu sais, à domicile, comme les deux matchs en fin de semaine, à la limite, tu as le dernier changement. Tu t'arranges pour jamais le faire commencer en zone défensive à la mise au jeu. Sur la route, c'est un petit peu plus compliqué. Puis vraiment, c'est défensivement, là, il est vraiment pas de calibre pour la ligne. Puis je suis d'accord, en attaque, là, c'est un gars créatif. J'y enlève rien de son attaque, même s'il pourrait être plus productif. Si c'est un joueur offensif, il faudrait qu'il ait plus que 8 points cette année. Là, mais défensivement, c'est vraiment difficile.
Je pense que des fois, on oublie à quel point, là, pour devenir un joueur complet de la Ligue nationale, quand tu es un joueur de talent, c'est pas évident. Je vais prendre toujours l'exemple de Jack Eichel, qui au début, là, défensivement, il y avait de la difficulté. Pourquoi? Parce que lui, partout où il est passé, c'était le meilleur joueur. Ses coachs, tout ce qu'il disait, c'est « mets le puck dans le net, puis on va gagner, puis il n'y en a pas de problème. » Puis il avait jamais vraiment à se soucier de jouer dans les deux sens de la patinoire. Et Kotkaniemi, ça va être un apprentissage s'il va se rendre là, comme Eichel éventuellement.
Ben, la différence avec Eichel, c'est qu'Eichel avait 57 points en 61 matchs à sa deuxième année dans la Ligue. Tu sais, tu prends les lacunes rendues là. C'est juste que Kotkaniemi, en plus, il d'être produit vraiment pas bon défensif, il produit pas.
Puis même son côté, le côté potentiel offensif, créatif, vision, je le vois pas, ce jeu de puissance. Là. Je vois des joueurs avorter, je vois des passes tentées quand il n'y a pas de destinataire ou il y a 18 palettes entre lui et le destinataire. Oui, il fait quelques bons jeux. Je l'ai vu faire une belle passe en début de match contre Washington en première période, là, dans les premières minutes, après le premier but qui a été marqué de Petrie. Après ça, il y a une autre attaque. Il va en faire des beaux jeux, j'espère. Il joue dans la Ligue nationale. J'espère qu'il va faire un beau jeu de temps en temps, mais c'est puis là, c'est pas de le condamner pour l'avenir, mais moi, je pense qu'il faut vraiment, puis ils se sont peut-être assis, c'est pas ça du tout, là. C'est qu'en temps réel, compte tenu des attaquants disponibles, je pense qu'ils doivent peut-être se refaire un plan de développement, parce que il faut qu'ils se disent quelle est la meilleure décision pour que lui arrive l'an prochain, puis qu'il lutte pour un poste. Je peux pas croire qu'on lui donne un poste tout cuit dans le bec l'an prochain.
Je pense que s'il retourne à Laval, ça me semble assez clair que s'il retourne à Laval, ou tous les joueurs qui vont retourner à Laval, sauf Suzuki peut-être, ils vont devoir se battre pour un poste l'année prochaine, j'en suis convaincu. Puis moi, je pense pas que le Canadien va liquider son alignement là, à la date limite des échanges. Je pense que le Canadien va chercher à avoir une équipe qui va faire les séries l'année prochaine. Il va amener de la compétition externe. Puis il va falloir que Péling, puis Kotkaniemi, puis Fleury, puis Mété, ils se battent pour un poste. Puis je pense pas que tous ces gars-là soient dans l'alignement l'année prochaine.
Non. Mais si on l'avait renvoyé en novembre, là, ou plus tôt dans l'année, peut-être qu'il serait allé chercher la confiance nécessaire pour revenir en janvier, puis en février.
Mais n'oublions pas qu'au moment où il y avait beaucoup de discussions, c'est là qu'il a été blessé aussi. C'est la période où il aurait pu le renvoyer. C'est arrivé genre dans la même semaine.
À ce stade-ci, peut-être que même lui verrait ça positivement, d'aller en quelque part où c'est plus tranquille, puis il y a pas la même pression. Mais tu sais, je sais pas si Domi est véritablement un gars que le Canadien veut échanger, mais en le replaçant au centre, je pense que le Canadien sait que on peut obtenir une valeur maximum avec Domi en tant que joueur de centre, entre guillemets. Fait que je pense qu'ils vont le laisser là, au moins jusqu'à la date limite des transactions, ce qui fait en sorte que là, Kotkaniemi...
Je pense qu'il se retrouvait aussi à l'aile un peu par défaut parce qu'il manquait beaucoup de... Tu sais, il manquait quand même Gallagher, il manque Drouin, il manquait Armia. Tu sais, c'est vraiment c'est là, mais souvenons-nous, l'année dernière, ses succès, il les a eu au centre, il les a pas eu à l'aile. Puis là, regardez les 12 derniers matchs, Domi, il a pas marqué, là. Donc, depuis le 1er janvier, là, Domi,
il y a eu une très bonne séquence durant le temps des fêtes.
Ouais.
Excellente
mais depuis
séquence.
Cette séquence, il n'a pas marqué une seule fois, puis je veux dire, ça coïncide qu'il jouait à l'aile. Fait, c'est normal un petit peu.
Ben, c'est moitié-moitié. C'est après le match.
Il t'en coûtait combien au centre aussi? Un gars peut mettre des points sur le tableau dans une défaite ou causer des défaites. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive leur décision, mais même au centre, il n'y avait pas le niveau de production. Il y a eu des séquences de production, mais.
Moi, je pense qu'ils vont essayer. Ils essaient de recréer l'étincelle de Domi au centre de l'année dernière. Avec malheureusement peu de succès là, depuis un mois, mais je pense qu'ils essaient de refaire ça.
Mais en fait, le retour de Drouin va assurément profiter à Domi parce que tout à coup, l'aile gauche devient Tatar, Kovalchuk, Drouin. L'aile gauche, ça devient intéressant. Fait que c'est sûr, à ce moment-là, c'est sûr que Domi se retrouve avec un ailier gauche qui est
de qualité.
De qualité. Puis là, à droite, après ça, on se retrouve avec Gallagher, Armia. Qui me reste
Kovalchuk.
Kovalchuk, je pense qu'il est plus.
Il s'aligne des trois droitiers, là, avec Suzuki hier, Armia et.
Mais il joue à gauche, Kovalchuk, à ce moment-là.
Okay,
mais
tu parles du flanc droit,
je pense que c'est le flanc droit. Gallagher, Armia, Lekkonen, Pelling.
Moi, je pense que Domi, ça a été un des joueurs qui a le plus souffert des blessures de cette année, étant donné que le premier trio, on a essayé de le garder intact pas mal toute l'année. Fait que malheureusement, les absences se sont fait ressentir sur Domi. C'est pour ça que je voudrais pas qu'on le juge trop rapidement, même s'il est pas toujours parfait, mais. Je pense qu'avec des joueurs autour de lui de meilleure qualité, il pourrait reprendre le rythme qu'il avait l'année passée.
Mais il reste que c'est quand même décevant qu'un gars qui joue en moyenne 18 minutes par match depuis le 1er janvier n'ait pas de but. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Là.
Ben, c'est sûr. Puis je pense que si on dit que on doit y aller au mérite du côté des recrues, moi je pense que c'est vrai aussi absolument. Pour ces gars-là. Puis d'ailleurs, le fait d'avoir donné autant de glace à Kotkaniemi en avantage numérique a dû soulever un certain mécontentement de gars qui n'allaient pas chercher leur point d'avantage numérique quand ils changent sa glace puis qu'ils font rien.
Je pense que quand Domi est rendu sa troisième ligne, ça envoie quand même un certain message. T'es au centre fine, mais tu t'en vas jouer sa troisième ligne.
Cela dit, par rapport à Kotkaniemi sur l'avantage numérique, je sais pas à qui enlever des minutes parce que tu sais, un coup que Kotkaniemi, tu sais, le Canadien joue à quatre attaquants sur l'avantage numérique, ça veut dire qu'il y en a huit sur les deux vagues. Si après ça, on décide en plus de mettre Cousins là-dessus, tu sais, il y a Lekkonen qui a très peu joué en avantage numérique, mais sinon, tout le monde a eu son tour.
Il n'y a pas mille options non plus.
C'est
là.
Ça, je pense pas que Kotkaniemi a volé quoi que ce soit.
Ça en prend juste un qui pense qu'il ferait mieux que lui. Ça n'en prend pas 12, tu sais, pour qu'il y ait un mécontent puis dire, hey, moi, pourquoi je joue? Ben, tu sais, je te dis pas que c'est le cas, mais il y a toujours quelqu'un qui pense qu'il ferait mieux parce que c'est pas bien dur à battre, le gars. Il n'y a pas beaucoup de production. Le match, c'était pas pire. J'étais étonné qu'on réunisse trois droitiers ensemble, mais c'est trois bons gars avec la rondelle. Je sais pas si la combinaison vous a plu, les gars. Kovalchuk qui a encore marqué hier.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est lui, là. En tout cas, à date, là, je sais que l'échantillon est petit, mais peu importe qui on met à côté de lui, il continue de mettre le puck dans le net.
Ça, ou créer des chances lundi contre Washington, là. À part le quatrième trio qui a créé quelques occasions, c'est encore Kovalchuk qui n'était pas loin des chances créées.
Ça fait d'excellents arguments pour Marc Bergevin si jamais on veut l'échanger. Parce qu'on prouve que peu importe sur quel trio on le met, on l'a placé sur le premier trio, ça a fonctionné. Là, avec le retour de Gallagher, on le déplace. Il continue de produire. Donc, comme j'ai dit, l'échantillon est très petit. Mais écoute, pour Marc Bergevin, là, c'est de l'or en barre là, de le voir continuer de produire de cette façon-là.
Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, honnêtement, c'est Brett Kulak. C'est vraiment, il est dans les mal-aimés, là, on s'entend, là. Ah ouais. Je veux dire, à chaque fois que j'écris sur Brett Kulak, peu importe quelle plateforme, je reçois des
messages. Tu fais ramasser,
Ah ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Mais écoutez, là.
Il est capable de faire des belles choses.
Ben,
hier,
il était excellent. Écoutez, il était sur la glace hier pour 25 chances de marquer pour, puis 5 contre, là. Quand même, là, je veux dire, il finit le match avec 80% de possession de rondelles.
Il s'implique beaucoup offensivement.
Oui, en effet. Et tu sais, on pense souvent comment ça se fait que c'est pas Fleury qui joue à sa place. Écoutez, Kulak, là, depuis le 1er janvier, c'est le joueur du Canadien qui a le meilleur différentiel. Là, quand même, il est à plus 5. Là. C'est quand même intéressant. Puis ça passe complètement inaperçu là, parce que c'est le mal-aimé, parce qu'on n'a pas. Mais il joue vraiment pas du mauvais hockey là, présentement.
Mais Kulak, j'ai l'impression, en fait, c'est.
Et c'est pour ça qu'il joue.
Mais c'est pas un défaut, c'est que c'est un défenseur extrêmement générique. C'est-à-dire que c'est pas un gars qu'on va jamais voir ressortir dans un match éclatant. En fait, un bon match de Kulak, c'est un match où on le voit pas beaucoup, où justement, il, pour reprendre les termes préférés de Claude Julien, il tue des jeux dans sa zone. Il est responsable. Alors, Kulak, je pense que c'est un gars qui est extrêmement qui est très réactif à son niveau de confiance. C'est-à-dire que quand Kulak, ça fonctionne pas pour lui, puis justement, il passe des matchs dans les estrades, tout ça, c'est long repartir la machine. Mais quand Kulak joue en confiance, sur le flanc gauche, c'est pour un une troisième paire, c'est une valeur très sûre.
Mais c'est clair présentement que Claude Julien va y aller avec les gars avec qui, sur qui il a confiance.
Tout à fait.
Il y a quand même une certaine confiance en Kulak. Il y a une confiance en un gars comme Dale Weiss. On a parlé à plusieurs reprises à quel point, tu sais, il fait ce qu'il a à faire. C'est un professionnel. Il fait sa job. J'ai pas besoin d'y expliquer 10 fois. Présentement, dans le mode où ils sont, je pense que ça va continuer comme ça.
Hey, ils ont donné un contrat de 3 ans, Kulak, là.
Non, mais il est pas si bas avec ça. Il est meilleur que Scandella, là.
Et même, c'est un gars qui a un potentiel, tu sais, c'est vrai que quand un gars fait pas d'erreur, tu le vois moins, mais moi, je trouve qu'on le voit, même offensivement, là, tu sais, c'est un gars qui veut provoquer des choses. Tu sais, la fameuse expression « pincher en zone offensive », je le vois vouloir s'impliquer. Des fois, avec succès, tu sais, il y a une certaine détermination en ce sens-là.
Ben moi, je trouve qu'on est très dur avec lui parce qu'il a pas 21 ans. On donne Mère Raymond, mettons, à Fleury, qui vient d'être travaillé. Écoutez, Fleury, il a un point en 40 matchs là, cette année. Là. Si Brett Kulak avait ces statistiques-là, là, tout le monde demanderait ce qui sort de la ville. Il a juste 26 ans. Là. C'est pas un mauvais joueur. Là. C'est un gars qui a un potentiel de rester avec l'équipe comme 5e, 6e, 7e défenseur pour les 3-4 prochaines années.
Mais c'est justement, c'est que souvent, puis excuse-moi, Jérémy, je te laisse à l'après, mais ce qui est important, c'est qu'il garde ce rôle-là. C'est souvent ça que le Canadien, puis on en a parlé même à ce micro-ci, que tout le monde se retrouve toujours avec des responsabilités plus grandes que ce qu'il mérite. Mm-hmm. Et Kulak, je pense que pour l'apprécier à sa pleine valeur, c'est un gars que peut-être qu'on va l'aimer à 16, 17, 18, 19 minutes, pas à 22, 23 minutes,
Ça va être entre lui puis Mété, là, éventuellement. L'année prochaine, ça va être ça, la bataille. Ça va être lui puis Mété, puis ben,
Ramanov va arriver dans le mix aussi.
Aussi, mais tu sais, moi, je préfère avoir Kulak que Mété, là, présentement, dans la ligne.
Et Kulak, juste un petit retour sur l'an passé, c'est une saison de 6 buts, 11 passes, 17 points, plus 12 en 57 matchs. Et c'est pour ça qu'on lui a donné un contrat de 3 ans. Puisqu'on est dans les contrats, je doute. Peut-être que ça va arriver que Tatar soit échangé, mais il y a une chose qui est certaine, autant pour une équipe qui veut faire son acquisition que si le Canadien veut le garder, même si je pense pas que c'est urgent que ça se passe cette année, dernière année de contrat la saison prochaine, il va coûter combien Tatar après ce contrat-là? Et est-ce que il figure dans le portrait du Canadien de Montréal? Oui, cette année, oui, l'an prochain, mais je parle par rapport à la masse salariale à partir de la saison suivante qui va nous amener donc en 21-22, si je compte bien.
Moi, je te dis, garde tes valeurs sûres. Je veux dire, Tatar, il a connu un mauvais moment là quand il est parti chez les Golden Knights, puis on l'a pas utilisé dans les séries. Mais dans l'ensemble de l'œuvre de sa carrière, il a quand même été assez constant. Il a été bon l'année passée, dans sa première année avec le Canadien, puis il continue d'être bon cette année. Je pense que si tu signes ce gars-là pour une période de 4 ou 5 ans, si dans 2 ans, t'es pris vraiment à la gorge avec ton plafond salarial, je pense que c'est un gars que tu peux bouger. Je pense que c'est un gars qu'une autre équipe va prendre sans problème. Fait que je pense pas que tu te peintures dans le coin là en signant
ça dépend de
ce gars-là. À, ton,
ben, à combien, ça dépend, Jérémy?
Ben, moi, je pense que c'est entre 5 et 6, là.
Ben, là, il est à 4,8.
Il est à 5 points. Il est en haut de 5 millions. C'est parce que les Knights payent une partie de son salaire.
T'as raison.
Mais il est en haut de 5 millions.
Oui, il est à 5,3 dans le fond de son 4 points.
Si Tatar marque 30 buts cette année, il se rend 70 points et qu'il reproduit une saison similaire l'année prochaine, c'est pas en 5 et 6. C'est en 7, certainement.
En plus, il a 29 ans. Il n'y a pas 35. Il est dans son prime présentement.
J'ai un peu, puis on a beaucoup parlé de Tatar ici et aussi de Petri. Mon opinion a un peu changé là-dessus. Moi, j'ai été un peu dans les radicaux qui disaient on l'échange dès qu'on peut, tout ça. J'ai un peu l'impression que c'est on l'échange Tatar s'il y a une offre qui en vaut la peine. C'est-à-dire que je pense que le Canadien a pas de fusil sur la tempe, visiblement, avec la position qu'il occupe au classement. Mais Tatar aime jouer à Montréal encore cette semaine. C'est un environnement où il est à l'aise, où il performe bien. Où il pourrait encore donner beaucoup de bons services au Canadien l'année prochaine. Cependant, si une équipe qui offre par exemple un choix de premier tour puis un espoir de haut calibre pour Tatar, je pense que
maintenant que Pittsburgh offre Samuel Poulin puis Nathan Légaré, là, qui sont des choix de première puis de deuxième ronde, le faites-vous?
Moi, je...
Ben, ça te rendra pas meilleur l'an prochain.
C'est ça, l'affaire.
T'auras pas de meilleure équipe l'an prochain, mais c'est sûr que tu réfléchis, là. C'est sûr que là...
C'est un choix de première ronde, puis un choix de deuxième.
C'est une base de discussion, très certainement, là. Mais la considération, je ramène ça à l'argent, parce que ça fait partie de la réflexion. Tu sais, si t'as 7 millions, ça mettons sur 5 ans, 35 millions,
tu veux-tu...
Je pense que quelque chose comme 7 fois 6, là, 7 millions par année fois 6 ans, là, ça risque 42, d'être... Ben, ça risque de ressembler à ce qu'il va demander.
T'es 7 pas fois pris 7, avec, 7 il fois est toujours 6, échangeable, s'il continue de produire, mais c'est cher.
Ben, je fais juste dire, la plupart des joueurs qui signent à cet âge-là des contrats de cette durée-là ont une clause de non-mouvement. Là.
Mais tu parles de Pittsburgh, j'ai hâte de voir Jim Rutherford, ce que Jim Rutherford va faire. Parce que, tu sais, il y a encore Crosby et Malkin, il y a encore une bonne équipe. Il manque un petit morceau, Galchenyuk, ça n'a pas levé. Écoute, est-ce qu'il va regarder du côté de Montréal?
C'est idéal, là, honnêtement, pour lui. Là, ça serait vraiment une bonne prise, mais il faut que tu donnes. Est-ce que les Pingouins pourraient donner des gars comme Légaré, comme P.O. Joseph? Écoute, ils ont vraiment beaucoup de joueurs qui pourraient plaire aux Canadiens. Là. T'sais, des Québécois qui ont 20 ans, 19 ans, 18 ans, qui sont dans les top joueurs du Québec, ils en ont plein. Est-ce que...
Tu sais, tu peux le faire, Alexandre, puis sans t'améliorer à cette position-là directement dans cet échange-là, mais tu t'es créé un trou à gauche. Je te dis pas que tu peux pas le combler. Ah, mettons à gauche, vite fait. Est-ce que ça te donne une raison de plus de soumettre un contrat à Kovalchuk pour qu'il joue à gauche si tu permets d'échanger Tatar?
Oui, peut-être.
Y a-t-il un lien entre l'avenir des deux?
Ben, peut-être. Mais moi, c'est que les gens arrêtent pas de dire, moi, Tatar, ça me donne un choix de première ronde, puis un espoir, je vais y aller. Mais quand tu mets des noms, des gars qui ont été repêchés en première ronde, là, soudainement, on est comme hésitant un petit peu. T'sais, c'est comme si un 26e choix overall, on le voit pas, puis on dit, ça va être le fun. Mais quand tu transfères ça en joueurs qui sont repêchés autour de 20e, là, soudainement, on est un peu plus hésitant.
Mieux que... Exactement. Tu sais, ta valeur sûre, tu la gardes. Tu veux pas surpayer, mais tu veux le garder à Montréal. Puis moi, j'ai dit, là, depuis que le plafond salarial existe, parce qu'on s'inquiète toujours du plafond, on s'inquiète toujours de ça. Mais il n'y a pas une équipe de la Ligue nationale là, qui a pas été capable de sortir de ça, de laisser partir un joueur le jour avant la date limite où tu es obligé de te mettre sous le plafond. Donc, moi, je ne m'inquiéterais pas pour ça. Signe le joueur si tu penses qu'il en vaut la peine, puis on dealera avec le reste plus tard.
Oui, en tout cas, c'est pas une décision ou les sujets de réflexion qui manquent pour les dirigeants du Canadien. Puis ça va s'intensifier. On approche très, très vite de la date limite des transactions. Il y a quelques collègues, surtout du marché ou anglophone, canadien anglophone, qui collaborent avec divers médias, des Pierre Lebrun. Il y en a eu d'autres. Je me souviens pas de tous les noms, mais ceux qui ont fait leurs enquêtes, à savoir, et apparemment que ils s'attendent pas à grand chose cette année. Mais tu sais, c'est rare qu'il se passe de quoi de bien gros à date limite des transactions, les gars. Et avez-vous l'impression que c'est un mois de spéculation juste pour gonfler
juste un mois, bien plus qu'un mois.
Ben oui, on le sait. Malheureusement, souvent on spine du vent. Là, c'est la réalité. Mais non, moi je pense pas. Moi je pense que le Canadien va procéder à des transactions. Au moins une transaction importante. Puis je pense pas que ça va être une vente, je pense que ça va être peut-être une acquisition même. Quelqu'un qui pourrait rentrer chez le Canadien.
Pour plusieurs années, je veux dire, dans ce sens-là.
Oui, un joueur qui pourrait venir ici, que ce soit un joueur qui est autonome à la fin de l'année avec qui on a déjà une entente, un genre de trade and sign ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Moi, je pense que ça risque d'être une acquisition plus qu'une...
Enfin, on voit
pour
beaucoup,
les années
là, à venir. Dans les dernières années, la date limite des échanges, on a surtout vu des échanges un pour un. Des échanges à la Jordan Wheel là, l'année dernière, on voit beaucoup ça. Le Canadien aime beaucoup ce type d'échange-là, là, d'aller chercher quelqu'un sous-estimé dans la Ligue américaine à qui on voit un potentiel. Je pense moi aussi que s'il y a un échange, ça risque d'être deux joueurs à talent égal. Hein. Il y a de plus en plus de rumeurs autour de Max Domi. Mais tu sais, Max Domi pour un joueur égal, c'est quelque chose qui pourrait arriver, à mon avis, là, dans l'environnement du Canadien. Je pense qu'on se fait des idées sur la valeur de certains vétérans. Tu sais, qu'on dit, on va échanger Nate Thompson puis Scandella. Oubliez ça, là, je sais. Le Canadien a besoin de joueurs pour terminer son année. En partant, à moins que vous voulez voir juste des Jake Evans puis des Lucas Vaidemo à Montréal, ils en ont besoin, là, de joueurs. Puis. Ben...
Moi, je peux pas échanger tout le monde. Je suis assommé de voir là, que quand on a obtenu Domi, là, sur le coup, on n'était pas sûr. Mais dès qu'il a commencé son année, on s'est dit « Wow, quelle acquisition, quel coût, on va l'avoir pour plusieurs années. » Un an et demi plus tard, on est prêt à l'échanger. Puis là, il connaît pas sa meilleure saison, mais on l'a expliqué tout à l'heure, il y a eu beaucoup de blessés. Si on prenait l'opportunité de cette année un petit peu plus difficile pour Domi, pour lui offrir un contrat à long terme, sur des termes quand même raisonnables, parce que là, il pourra pas demander la lune. Puis que l'année prochaine, justement, il se retrouve aux côtés de joueurs de meilleure qualité qui sont en santé, puis qui redevient le joueur qui était l'année passée. Est-ce qu'on ferait pas un bon coup chez
le Canadien? C'est sûr que c'est à l'avantage du Canadien ce qui se passe présentement avec Domi puis ses stats à la baisse. Là.
C'est sûr qu'on aimerait qu'il remplisse le filet.
Tant qu'il est à 10 points de la tête, tu veux pas le payer 9 millions l'année prochaine. Tu vas préférer le payer 6.
C'est
là,
ça.
Fait que, oui, ça pourrait arriver. Puis l'autre chose, il y en a quand même eu là, des joueurs étoiles là, échangés dans les dernières années. Date limite. T'sais, Matt Duchesne, par exemple, avait été échangé. Ryan Dezingle, Zuccarello. Donc, Brandon Montour l'année dernière contre un shot de première ronde. On n'est pas à l'abri de ça, là. Montréal non plus. Ça pourrait arriver, mais je pense T'sais, défaite, les faut quand même que les amateurs soient réalistes. Là, pis des joueurs de troisième et quatrième trio, là, ça rapporte pas des choix de première. Puis sûrement pas des choix de deuxième ronde non plus. Puis tant qu'à aller chercher d'autres choix de cinquième ronde, écoutez, là, le Canadien est mieux de garder des gars comme Nate Thompson que c'est pas vrai. Là, les choix de cinquième ronde, il y en a plein, ils sont même plus capables de les signer.
Ouais. Ben, c'est parce que si tu liquides, puis je pense que la tentation sera là d'en liquider quelques-uns si tu peux aller chercher certaines valeurs, certains actifs. Mais là, si tu te ramasses dans une situation où il faut que tu fasses grimper tout le monde de Laval pour finalement venir finir l'année dans un contexte perdant. Je vois pas ça comme du bon développement.
Non, mais tu peux avoir un choix de cinquième ronde puis un joueur de la Ligue américaine. Ça, j'aurais moins de problèmes, mettons, avec ça.
Je serais curieux de demander à une couple de DG, est-ce que en matière de développement, t'es-tu mieux de faire jouer pendant deux mois des gars contre des hommes de la Ligue nationale dans un contexte où tu vas peut-être gagner un match et c'est là, ou t'es mieux de les faire jouer dans un contexte où ils peuvent dominer dans une bonne chaise à un niveau supérieur où t'as une chance d'aller loin en série? Moi, j'ai tendance à privilégier le deuxième scénario.
Mais ben, surtout dans le cas du Canadien où le Rocket, pour la première fois depuis des années, est en position de faire les séries. Fait que je pense que pour les gars qui sont là-bas, qui mangent leur pain noir depuis un certain temps, je pense qu'il y a un timing très intéressant pour justement garder les jeunes en bas.
Je pense, de toute façon, soit Pelling, soit Côte-Canui, il va être renvoyé. Là, quand tous les joueurs réguliers vont être dans l'alignement, s'il n'y a pas d'autres blessures, il va falloir renvoyer des joueurs. Là, puis ils ne laisseront pas sur le banc les deux. Fait que ça va arriver par défaut. Écoute, mettez, s'il ne va pas, il n'est pas loin d'y aller non plus.
Mm-hmm. Juste pour compléter sur Domi, là, j'aimerais ça revenir là-dessus. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut éplucher puis décortiquer. Là, on peut voir tous les défauts d'un gars et ses qualités. Il nous manque des infos quand même. C'est les infos de l'interne. Je sais pas si vous en avez. C'est quoi la chimie qui règne entre Domi et ses coéquipiers? Est-ce que c'est vu comme un gars qui met l'équipe en premier de l'intérieur, au-delà de nous, notre jugement extérieur? Et ça, c'est vraiment important pour la suite des choses. Parce que, tu sais, il y a des gars, des fois, comme je pense à Brad Marchand, tu sais, des gars avec qui tu as dû composer avec certains de ses défauts, mais à force de travailler avec, je dis pas que Domi, c'est un Brad Marchand.
Mais
là,
Gallagher, c'est un exemple.
Tu sais, est-ce que tu peux continuer de travailler avec Domi? Et faire en sorte qu'il s'améliore. Si de l'interne, tu le vois comme un plus dans le groupe, si c'est pas un irritant dans le groupe. Mais ça, moi, j'ai pas la réponse, bien humblement, à cette question-là, mais c'est vraiment une réponse importante pour la décision que tu vas prendre.
Je commence à être un peu tanné de joueurs qui quittent parce que ouais, il s'entend pas avec l'autre ou sa personnalité. Ou, tu sais, on peut-tu parler de hockey? On peut-tu parler de ce qui se passe à la glace? Il y en a pas de joueurs parfaits. Tu sais, je veux dire, t'as des gars qui dans la chambre sont super fins, mais ça à glace, ils te donnent pas grand-chose, ou ils ont pas le talent, ou ils ont pas le niveau, ou sont pas dévoués quand les moments importants arrivent. Donc, il faut que tu vives un peu avec ça. Puis moi, je pense que Domi, il coche dans la case positive quand même plusieurs cases. Donc, tu sais, moi, je serais pas prêt à abandonner sur un gars comme ça, rapidement, comme cela, même si on dit que peut-être que dans le vestiaire, c'est peut-être pas le meilleur des coéquipiers, mais tu viens de le mentionner. Brad
je
Marchand,
sais pas, ça. Qui nous dit bon, ça?
Non, je sais pas. Je dis t'sais, ça comme
je,
ça. Parce
je
que...
sais pas, moi. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a fait blasphémer quelques-uns.
Ben, il y a plusieurs membres des médias là, qui sont pas capables de le blairer. Il y a plusieurs membres des médias qui sont pas capables de... Moi, j'ai eu aucun problème avec lui. Ben honnêtement, 0-0-0, il a toujours été bien correct, mais il y en a qui peut-être qui sont le plus souvent que moi qui...
Ben c'est parce que c'est pas pour les médias, en tout cas pour les médias électroniques en français, c'est pas un joueur payant souvent. C'est-à-dire que les matins de pratique, il y a trois mots dans la réponse, ça y tente pas beaucoup, mais après ça, ça veut pas dire que parce qu'il fait donne pas une bonne clip à ABS
ou que c'est un mauvais coéquipier.
Exactement. Bon, moi, j'ai jamais eu l'impression que par rapport à ses coéquipiers ou avec ses interactions avec les autres joueurs sur la glace, à la pratique, au match, dans le vestiaire, que c'est un gars qui est
écoute,
isolé ou quoi
ça vaut
ce soit,
que ça vaut, là. Mais j'étais à la visite à l'hôpital avec Max. Puis Max était dans le milieu. Puis c'est lui qui comme menait le groupe.
Non, mais je pense que c'est un meneur. Dans le groupe du milieu, clairement, même Bergevin l'avait identifié dans son groupe de leader. L'année dernière, qu'ils sont allés en Californie, c'est lui qui a organisé les activités. Je pense pas que ce soit un problème de relation avec les joueurs. C'est quelqu'un qui peut être distant, mais ça, il y en a plein là, des gens. C'est toi qui est extraverti de la même façon. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, ça fait quand même plusieurs fois cette année que Claude Julien dit qu'ils lui ont passé un message puis qu'il l'a pas compris. T'sais, même lui, il a reconnu après sa mauvaise punition là, il y a deux semaines. Ah ouais, écoute, on me le dit, puis tu sais, c'est vrai, j'aurais pas dû agir comme ça. C'est juste, à un moment donné, quand ça fait 5, 6, 7 fois, tu sais, je me mène à la position de son patron qui doit se dire à un moment donné, hey,
tu veux jouer pour l'équipe en premier?
Ben, il apprend-tu, là, c'est ça. Ouais. Je peux comprendre, mais ceci dit, tu sais, des gens talentueux, mais qui sont pas nécessairement les plus agréables avec qui travailler, il y en a dans toutes les entreprises. Ouais, puis là, c'est là qu'on voit, est-ce que le Canadien a des bons gestionnaires qui sont capables, en fait, de passer par-dessus ça? Mais tu sais, est-ce que maintenant, c'est un cas, tu sais, à la Piqué-Souben, où là, on entendait des choses des coéquipiers, là, je veux dire, puis pas un peu, là. On n'est pas là, là avec Max Domi, je pense. En tout cas, non, écoute, à moins là, qu'il y a quelque chose qui n'a pas filtré, mais on n'a pas ces échos-là.
Fait que, et juste sur ce que je me base à la glace, oui, je vais travailler avec, mais honnêtement, je peux avoir une valeur intéressante en retour. Là. Puis, peut-être aussi essayer d'un peu grossir mon équipe sans diminuer sur le talent. Moi, je suis pas un gars que je trouve très efficace dans le jeu d'ensemble.
Ben,
mais je suis pas. Tu sais, si tu peux travailler avec, si t'as des bonnes.
Moi, je trouve que Max, là, c'est encore un joueur qui est quand même jeune.
Oui.
On a vu plusieurs exemples de joueurs.
Il y a 24,
qui arrivent. 25. C'est ça.
Il va avoir 25 le 2 mars.
Il va avoir 25. OK. Il est pas si jeune que ça. Mais, ouais, c'est pas pire, non, mais il y en a qui arrivent à la mi-vingtaine ou un petit peu plus tard, qui là, tu vois la maturité qui arrive. Tu vois que ça enclenche. Brendan Gallagher, c'est un joueur qui avait pas nécessairement la discipline sur la patinoire qu'il a aujourd'hui.
Non.
Il y a 2, 3, 4 ans.
Il a fallu nettoyé sa, mais ça a valu sa game, la entre guillemets,
vraiment. Ça a valu la peine d'attendre. Je dis pas que les deux gars sont exactement pareils, mais ça a valu la peine d'attendre.
Mais ça dépend qu'est-ce qu'on... Si, un, il y a des offres là, pour Domi, mais s'il y a des offres, tu peux pas ne... pas écouter. Je pense pas avec Domi. Évidemment, là, écoute, si les Oilers offrent Leon Draisaitl, tu vas dire oui.
Ben
là,
oui,
ça
ben
va
oui
pas... mais à partir de là, tu dis, hein? Tu sais, jusqu'où t'es prêt à descendre, mettons, pour, puis moi, j'irai pas contre des choix, puis j'irai pas contre des prospects.
Non,
là, si le Canadien échange Max Domi, il faut un choix équivalent à Max Domi. Là.
À quelle position? À la même position, potentiellement?
Ou ça peut être un ailier, mais tu sais, je veux dire, ça prend un joueur de plus de 60 points. Le Canadien doit se créer un line-up pour gagner... Bon, en tout cas, pour participer aux séries l'année prochaine, il peut pas s'affaiblir en échangeant Max Domi.
Qui va t'offrir, à la date limite des transactions-là, un gars qui ramasse 60 points par année puis qui peut être l'équivalent de Max Domi?
Mais en fait, c'est que ça revient, c'est une question qu'on décide de se poser de contre qui échanger Max Domi. Parce que est-ce que le Canadien a besoin d'échanger Max Domi?
Non, je pense pas. Une autre équipe peut le vouloir.
Non, mais je disais, si une autre équipe en rêve, puis là, tout à coup, ça règle un problème, vu qu'il y a sans contrat cet été, tout ça. Mais bravo, mais je suis pas certain que c'est à moins qu'en tout cas une fois que Domi ait des problèmes dans l'équipe qu'on connaît pas, j'ai pas l'impression que Max Domi est en haut de la liste de Marc Bergevin de problèmes à régler puis de gars à échanger.
Je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire, les gars, sur des joueurs du Canadien ou sur ce qui s'en vient par rapport à eux.
J'ai hâte de voir Drouin, là, frère.
Ouais, vraiment.
Est-ce qu'on a la confirmation de son retour en fin de semaine? Moi, je pense que ça va aller après le week-end. Dans le fond, il avait fixé la date du 2 février au départ, là. Fait que c'est dimanche.
Ben, en fait, le Canadien, hier matin, ils ont juste dit qu'ils joueraient pas à Buffalo. Aujourd'hui, ils sont en congé. Fait qu'on va savoir demain matin tôt s'ils jouent contre les Panthers demain après-midi.
Il ressent encore de la douleur quand il essayait de dégainer. A-t-il dit aux journalistes plus tôt cette semaine?
J'ai pas de ce genre de blessure-là qui fait mal.
Oui, exactement. Avez-vous regardé, ne serait-ce que les faits saillants du dernier affrontement où on tant attendu entre les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary? Avez-vous été surpris de voir Matthew Tkachuk jeter les gants et répondre à l'invitation qui était lancée publiquement de par Cashin puis tout le monde qui souhaitait le voir affiché présent pour un combat?
Pas en tout.
C'est un joueur
qui clamait ce caractère-là. Ce que j'ai trouvé plutôt amusant, en fait, c'est que Cashin s'est pas battu comme sur la première mise au jeu du match.
Il l'a fait attendre.
Ça, je trouve ça assez intéressant. Le mind game là-dedans, les jeux d'intimidation là-dedans. Moi, je suis vraiment contre la violence au hockey. Maintenant, je crois que c'était un peu inévitable parce que la première fois, les arbitres n'ont pas agi contre Matthew Tkachuk, qui méritait franchement de plein de punitions. Là. Il y a un style de jeu qui est abrasif qui, à mon avis, devrait pas être permis. Bon, maintenant, ça a été fait. La solution à ça est assez simple. Je veux dire, c'est de donner des suspensions aux joueurs qui se battent, puis des suspensions sans salaire. Là, les joueurs vont y réfléchir, mais tant que ça arrivera pas, c'est sûr que les gars, ils vont se battre dans ces situations-là.
Moi, je pense que Tkachuk, à partir du moment... Moi, j'aurais pas attendu là jusqu'à 3 minutes de la première période. J'aurais dit au début, tu veux-tu y aller ou non? C'est là que ça se passe. Sinon, après ça, viens pas me revoir. Let's go. Hey, là, l'autre, il fait languir, puis tout ça. Pis, écoute, ça fait... Je sais pas. Tu sais, puis là, tu lis les commentaires de Cashin, puis là, c'est comme, ouais, je voulais qu'il pense à son, je voulais qu'il réfléchisse à son affaire, mais je respecte le fait que, tu sais, il a droppé contre moi, puis il a été un homme, puis tout ça. Fait, ça fait barbare, c'est barbare.
Ben, ça fait barbare. Surtout la manière de, en fait, peu importe à quelle mise au jeu ils l'ont faite, ça, la première période ou la dernière, la première période, ce modus operandi-là, de on se regarde aux ailes, on se parle, puis on lance les gants.
C'est complètement absurde. Moi, il y a quelque chose qui... C'est exactement
ça. La solution est super facile.
Ça appartient complètement au passé. C'est des matchs Avalanche Détroit des années 90. Il n'y a rien à faire avec ça.
Disons une chose, les batailles, elles sont déjà interdites dans le sens où elles sont illégales. Elles sont punies par 5 minutes de punition puis des instigateurs. Mais tant qu'à être là-dedans, augmentons la punition puis là, il n'y en aurait vraiment plus. Non, mais... Vous voulez vous battre, battez-vous, mais il y a des conséquences à la
règle. Non, mais il l'avait mangé, sa volée, là, dans le dernier match. Est-ce que je cherche? Pourquoi c'était nécessaire de...
Mais moi, c'est parce qu'il n'avait pas engagé le combat.
OK, ouais.
C'est juste ça. Tu sais, comme Claude Lemieux, dans le temps, son geste très déloyal, très discutable sur Chris Draper.
Ouais.
Là, c'était ça qu'on lui reprochait, dans le fond, tu sais, de traiter un peu de gars qui y va, mais qui assume pas les conséquences de ses gestes. Oui, c'est peut-être le vieux code, mais il y en a encore qui voulaient que ça soit respecté. Et je suis convaincu que si tu demandes aux joueurs, là, le vote des joueurs, 100%. C'est sûr que c'est du 95%.
Ah oui, oui, oui. Mais c'était qui au banc des Flames qui disait c'est moi le prochain? À
Carcio, non?
Je me rappelle pas.
Oui, je pense que c'est Carcio qui dit, Carcio, qui fait signe, puis il dit...
C'est pas Carcio, mais...
C'est Rinaldo.
Rinaldo, c'est ça, je mélange.
On s'est trompé d'Italie.
Oui, exactement. C'est du même acabit, quand même.
Ben, c'est ça, j'ai trouvé ça drôle, finalement, il s'est rien passé.
Mais les gars, le hype, tout le build-up, là, tout ce qui a été dit avant ce match-là, là, comme élément de promotion, là,
c'est incroyable.
Malheureusement, je sais pas, mais...
En plus, il y a un autre match, Calgary, Edmonton, en fin de semaine. Et je souhaite de tout cœur que les arbitres sont prêts pour ce match-là et que la laisse va être serrée parce que je regarde le coup de genou que Mark Giordano a donné à Connor McDavid. Ouais. Il y a encore de la matière là pour de l'escalade.
Et tu sais que Giordano est le gars qui l'a fait trébucher dans le poteau, McDavid. Là. Puis ils ont joué ensemble au match des étoiles en fin de semaine passée. Mais
il y a quelque chose qui se passe entre ces deux équipes-là. Puis c'est super pour la promotion, c'est super pour les fans, tout le monde trippe, mais cette marmite-là qui bouge, je pense pas nécessairement que pour le hockey, c'est très positif.
Écoute, je sais pas. Puis ces deux équipes-là pourraient s'affronter en série, hein, soit en passant.
Il y a un bon comparatif avec le baseball quand même. Jérémy, tu connais bien ça. Mais tu sais, quand tu sais que les Rangers vont jouer contre les Blue Jays, puis que l'autre qui a flippé le bâton, tu sais très bien qu'ils vont atteindre le joueur à la première occasion ou quoi que ce soit. Oui, il y a un hype qui est créé. Sauf que le baseball majeur réagit après, il suspend les joueurs 5 puis 10 matchs. Tu sais, t'as pas ça au hockey.
Écoute, c'est sûr que. Regarde, moi, j'aime pas la bataille.
Vous avez fermé, vous avez pas regardé Fessayant, les gars. Hein? Vous avez pas osé regarder ça, certainement.
Non, écoute, nous autres, ça fait partie de notre job, fait qu'on l'a regardé. Mais
Mario,
on va mais on va se
quel
dire,
professionnalisme.
Ça fait assez longtemps que tu fais ce job-là, Mario.
Oui,
Hercule, il y a 10-15 ans, les rivalités qu'on avait avec les Bruins, les Nordiques, notre job, là, elle se faisait instantanément. Je veux dire, quand on savait qu'il y avait un match canadien-nordique qui s'en venait, là, on n'avait même pas besoin de faire de recherche. La matière était là. Donc, c'est sûr que le fait qu'il y a moins de batailles, le fait qu'il y a moins de rivalité, moins de jeux physiques, ça enlève un aspect à la game. Ça enlève un certain attrait. Il y a quelqu'un qui posait la question hier, je sais pas où est-ce que j'ai regardé ça. Qui est présentement le rival du Canadien de Montréal? Avec qui le Canadien a-t-il présentement sa plus grande rivalité?
Les Bruins, j'imagine.
La position de classement fait que la flamme est plus basse qu'elle pourrait l'être normalement.
Mais quand il y a
place le Canadien en série contre. T'sais, ils n'ont pas affronté Toronto en série depuis 79.
Mais Canadien Nordique n'avait pas besoin d'être nécessairement proche au classement pour s'aider.
Oui, ça, t'as raison.
Tu comprends?
Oui, t'as raison.
Ça enlève quelque chose, veux pas, même si je suis pas un apôtre de.
L'animosité, la haine, la haine.
Moi, je veux dire, en tout cas, comme parent de kid qui joue au hockey, c'est vraiment pas une époque dont je m'ennuie, là, parce que, ça découle, sur les ados, là, ces comportements-là. Puis, on le voit, il y a moins de batailles dans la Ligue nationale. Il y en a presque plus dans le junior majeur. Écoute, je pense que c'est 5 fois moins qu'il y a 10 ans dans le junior majeur. Je pense qu'il y a eu comme 80 cette année seulement.
Mais on dira ce qu'on voudra, là, les équipes qui ont des gars intimidants, qui savent jouer au hockey, c'est un atout. Prenez Tom Wilson avec les Caps de Washington. Cashin, c'est un atout pour les Oilers d'Edmonton. Ils viennent de leur signer.
Écoute,
ça a pas marché à Montréal.
Plus que jamais, t'as des gars qui arrivent dans la Ligue nationale et qui se sont jamais battus, qui ont jamais vécu ça. Je pense que
Kanyemi
en avait parlé justement. Fait que quand t'as un gars qui vient de cette époque-là, puis lui, il est habitué, il est à l'aise là-dedans. Écoute, il y a une intimidation.
Je pense pas ça que les Kachuk vont avoir une très belle carrière parce qu'en effet, les meilleurs joueurs juniors qui perdent dans la Ligue nationale, c'est les stars de leur équipe junior. Là. Ils se battent jamais maintenant, ces gars-là. Jamais. Fait qu'un gars comme Kachuk qui frappe à gauche puis à droite, il va avoir du succès là, dans 5-6 ans quand les Tom Wilson et tout ça vont être disparus.
Moi, je pense que la perception envers Kachuk, ketchup, l'affaire avec ketchup, de Kachuk est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une semaine.
Je parle de la Ligue,
De la Ligue, de ses coéquipiers et de tout le monde. Et je pense qu'il vient, de grimper 2-3 marches dans l'estime de ses coéquipiers. Pour les bonnes ou mauvaises raisons, je suis convaincu qu'il est devenu plus un leader.
Et des autres équipes.
Je suis convaincu qu'il est devenu plus un leader à cause de ça.
Heureusement, lui, il s'est pas fait assommer comme Byron l'année passée.
Heureusement. Mais c'est toujours le risque. Tu disais, Simon Olivier, tu veux acheter quelque chose? Alors, les gars, je pense que c'est pas mal. Ça fait le tour pour aujourd'hui.
On nous parlait des loges, d'histoire des loges. Donc, peut-être, on se laisse ça pour une autre fois.
On va loger ça dans le tiroir gauche. Et on va en parler lundi, les gars.
Une nouvelle loge, au Centre Bell.
Exactement.
De luxe.
Oui. Et c'est pas donné, hein, 19 000 $ par année?
Par billet, par match.
Avez-vous mis votre nom sur la
liste? Pas par match, par année.
Ou bien payé. C'est pour l'année ou pour le match?
Par année.
Non, par année. 19 000 par match, Jean. Jérémy, je sais pas dans quel monde tu veux.
Non, mais pas le Super Bowl, Jérémy.
Je veux dire, il faut payer Carey Price, qui, par ailleurs, va très bien. Hein, 934 de pourcentage d'arrêt depuis le 1er janvier, il fallait dire.
Oui, ça aurait été le fun qu'on voit ça plus tôt dans l'année, ça aussi. Peu importe les raisons qui ont fait que c'était pas là. Mais quand tu essaies d'expliquer pourquoi le Canadien était aussi loin d'une place en série, mais je veux pas repartir le podcast, j'essayais de l'achever. Alors, merci. Merci Simon-Olivier Laurence, Jérémy Filosa, Alexandre Pratt. Merci. Bon week-end. Combien de points sur 4, vite fait, les gars?
4. 0.
3. Regarde. Faut que ça soit 4, tu sais. Mais je mettrai pas ma maison là-dessus. Salut, boys.
Ciao.
Super Bowl, prédiction. OK, non. Bye-bye.